Monsieur Truchon, puisqu'on aborde aujourd'hui notre petite analyse de la deuxième béatitude, je vais d'abord la citer. Bienheureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Ou encore, selon les versions, bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Alors, comme on l'a fait pour la première béatitude, on pourrait d'abord définir les termes. D'ailleurs, c'est ce qui me paraît toujours le plus complexe à faire. C'est parce qu'une fois qu'on a compris les termes, je pense que le message coule de lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, au moins on sait un peu plus de quoi on parle. Ensuite, il s'agit de rejoindre la réalité, de ce que les mots voulaient dire, et surtout encore l'expérience et la dynamique qui est suscitée. Alors déjà, on peut commencer, oui, par les termes. On sait qu'il y a toujours deux blocs, deux thèmes bibliques dans chacune des béatitudes. Oui. Le premier, c'est-à-dire ici les doux, et le deuxième, c'est-à-dire ils posséderont la terre. On pourrait tout de suite éclairer quelque chose à propos de la terre. Nous avons vu que dans la première béatitude, c'était bienheureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et ici, on a « ils posséderont la terre ». Alors, il ne faut pas penser ici que les pauvres vont posséder les cieux, puis les doux vont posséder la terre. Il s'agit d'une petite note exégétique très simple pour découvrir le sens de ça. C'est qu'en hébreu, le mot « tout » n'existe pas. Alors, quand un juif veut signaler le mot « tout », qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il essaie de nommer tout ce qui existe. C'est-à-dire, pour lui, ben, le ciel et la terre, c'est sûr qu'il ne reste pas grand-chose quand on a nommé le ciel et la terre. Alors, au fond, les pauvres vont posséder tout. Le ciel, la terre, tout ce que Dieu fait. Et tout est remis à eux.
Donc, leur satisfaction soit complète.
Satisfaction est complète dans chacune des deux béatitudes. D'ailleurs, la deuxième va encore éclairer la première, comme les autres aussi vont toujours éclairer celles qui précèdent, parce qu'on a vu qu'elles étaient interrelationnelles. Donc, on continue, au fond, à creuser les pauvres et le royaume de Dieu en continuant l'étude des béatitudes.
D'accord. Alors, au sujet de la douceur,
bon,
est-ce que vous voulez nous expliquer
oui.
un petit peu?
La douceur, d'abord, il ne s'agit pas d'une douceur de tempérament, ni d'un effet de glande, comme par exemple, je dis toujours en farce, mais c'est quand même un peu valable, que les vaches sont plus douces que les taureaux. Évidemment, les vaches ont moins d'adrénaline, elles ont l'air plus contemplatives, mais par contre, elles ont peut-être moins de force agressive. Et par contre, les taureaux ont tellement de force que des fois, ça peut être dangereux, la force, quand elle n'est pas éclairée, quand elle n'est pas possédée, maîtrisée. Par exemple, il s'agit de mettre un drap rouge devant un taureau et de le tasser ensuite, puis il rentre dans le mur. Alors, il voit plus le mur. Donc, la force, c'est dangereux. C'est dangereux de s'abandonner à une force. Il faut que l'intelligence continuellement surveille l'orientation de cette force. Alors, parce qu'au fond, la douceur s'oppose à la colère. Alors, étudiant le premier groupe, et on utilisera peut-être ensuite le deuxième thème,
oui.
Et en même temps, là aussi, ça va nous faire un peu comprendre le processus. Donc, on voit tout de suite que cette béatitude-là n'est pas le fruit d'un tempérament, comme par exemple quelqu'un qui vient au monde plus doux qu'un autre, qui est plus coléreux. Il ne s'agit pas de ça du tout. D'ailleurs, au contraire, on semble voir dans la vie des saints que ceux qui ont été les plus doux, qui sont devenus les plus doux, étaient peut-être les plus agressifs, puis
au départ.
Les plus vindicatifs, oui, au départ. Alors, au fond, il s'agit d'une conversion fondamentale.
Pardonnez-moi, c'est justement au sujet de la conversion que je voulais vous poser la prochaine question.
Oui.
Au sujet de la douceur, vous dites qu'elle suppose une conversion, oui. mais que par ailleurs, elle vient de Dieu par Jésus-Christ.
Oui.
La conversion, c'est une démarche volontaire. Mais vous semblez dire que la douceur, c'est comme une sorte de récompense à la démarche. Est-ce qu'il y a des garanties? Vous voyez, je me retrouve encore confronté avec la fameuse question de la gratuité.
Oui, c'est que évidemment tout est grâce toujours, mais nos consentements sont requis parce que Dieu veut engendrer un amour. Et pour ça, il faut d'abord qu'il engendre une liberté, ensuite qu'il oriente cette liberté-là pour la libérer. Alors, on va voir ça un peu plus d'ailleurs, davantage dans les doux. Donc, les doux, de quoi s'agit-il exactement? D'abord, la béatitude. Est-ce qu'on pourrait la résumer dans une phrase assez claire et assez simple? Oui, c'est la béatitude des thérapeutes. C'est-à-dire des gens qui ne coupent pas une relation malgré les frustrations qui apparaissent dans cette relation-là. Or, justement, c'est le propre de la thérapie d'accepter quelqu'un inconditionnellement, parce que c'est pas parce que quelqu'un va très bien qu'il va voir un thérapeute. Et c'est l'occasion ici peut-être de dire aussi que c'est une des béatitudes dont on a peut-être le plus besoin aujourd'hui. Pourquoi? On dirait qu'aujourd'hui on a encore plus besoin des sciences de la santé, des thérapeutes. Peut-être qu'on a travaillé beaucoup en Occident à produire des autos, des avions et le reste, et c'est bien utile pour produire des biens de consommation aussi, puis des moyens de biens de production, mais on dirait que l'homme a été un peu laissé pour compte dans ça. Et moi, ça me fait plaisir de dire que si aujourd'hui on travaille dans l'humanité 2000, tant mieux, à Radio Galilée, mais je crois, moi, que les prochains emplois de l'an 2000 seront surtout des emplois pour guérir l'homme. Donc, des emplois essentiellement humanitaires, parce que l'homme a besoin aujourd'hui d'être repris en compte et réorienté dans ses profondeurs. Alors, la psychologie, la psychanalyse, mais aussi l'agapéthérapie, les thérapeutes de Dieu. Alors, cette béatitude-là va devenir, d'après moi, de plus en plus en demande. La tolérance mondiale, inconditionnelle, c'est-à-dire du moment que la justice est sauvegardée, l'acceptation des orientations de la personne. On a on a les chartes des droits de la personne. Il faudra aussi développer la charte des droits des groupes, qui aujourd'hui peut-être ont besoin. Alors nous sommes en plein besoin du 20e siècle et du 21e siècle encore plus. D'après moi, le 21e siècle est le siècle de l'homme, donc de son bonheur, du bonheur de la terre. Et on dirait qu'il y a un mouvement mondial pour tout ça.
Vous écrivez qu'une fois qu'on est libéré de notre autosuffisance, on est en mesure d'agir avec lucidité et plus de maîtrise. Vous enchaînez qu'on peut alors, et je cite, agir non par colère, mais avec colère, surtout par amour. On ne laisse plus jamais de place à la haine en nous contre les personnes, contre les comportements peut-être, mais pas contre les personnes. Fin de la citation. Comment est-ce qu'on peut vraiment savoir si on hait une personne ou seulement son comportement? Parce que je pense que la colère, c'est un gros élément dans la béatitude.
Oui, c'est justement là le lieu pédagogique précis où se produisent les fruits de l'esprit. C'est là que nous en commençons à entrer dans le mécanisme humain. D'abord, quelle est l'origine de la colère? Tout de suite, on pourrait dire que Jésus, dans le Nouveau Testament, s'est fâché rien qu'une fois, mais on voit tout de suite qu'il maîtrisait sa colère. Et c'était pour défendre la maison de son père et pour, au fond, nous provoquer à nous convertir. Mais il s'est réellement fâché. Alors, Saint Jacques, lui, dit de se fâcher à peu près jamais. C'est parce qu'on se fâche des fois souvent. Des fois, quand on se fâche, c'est qu'on est esclave de notre colère. Et on passe tout droit. Dans l'Ancien Testament, contre les ennemis, c'était souvent œil pour œil, dent pour dent. C'est le dentier au complet qui partait. C'est le râtelier. On passait tout droit. Alors, c'est facile aussi des fois de penser qu'on veut corriger un enfant, mais en fait, on se dérage dessus. Et on peut même le faire avec nos conjoints et nos conjointes, ce qui est effrayant. Alors, on a besoin de cette thérapie. On a absolument besoin de cette thérapie les uns des autres pour nous rebâtir au fond. Alors, d'où vient la colère? Elle vient la peur, elle vient d'une peur. La racine profonde de la colère, c'est la peur de perdre la vie ou de perdre ses biens ou sa renommée. De perdre son bonheur ou ses espérances ou les fruits de son travail. Et là, à ce moment-là, on se défend. Ce qui prouve que la colère, au début, est une vertu. C'est un mécanisme de défense du moi. Un peu aussi l'orgueil comme ça quand ça commence. C'est pour, au fond, préserver sa dignité. On ne veut pas se laisser écraser comme un tapis. On ne veut pas non plus se laisser manger à laine sur le dos comme ça d'une façon absolument idiote. Et des fois, on comprend cette parole de Jésus, ce qui est effrayant. On la comprend des fois, envoyez la joue droite, envoyez la joue gauche. Autrement dit, nous autres, on est innocents, envoyez verge, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est vraiment stupide.
À l'opposé de la douceur, vous parlez donc de la colère, surtout celle qui est dirigée contre soi-même. C'est un petit peu le pendant du désir de vengeance envers les autres, je pense. Vous affirmez donc que la colère peut s'expliquer par le sentiment d'une excellence frustrée, déçue, que la colère, c'est une manifestation de l'amour de soi qui est lésé, et vous enchaînez en disant « L'homme qui n'a pas vaincu l'esclave de ce sentiment devient insupportable devant une limite qui lui en fait prendre conscience » ou devant des personnes qui sont pour lui un rappel de ses propres limites. Nous sommes tous limités, mais personne ne veut l'entendre dire, ni le découvrir. » Fin de la citation. Ça me paraît une vérité universelle, ça, M. Truchon, mais la colère, pour beaucoup de gens, c'est une force redoutable à surmonter, parce qu'avec la colère, c'est la capacité de discernement qui est littéralement mise sur la tablette. Et moi, j'y vois une impasse, hein, un cul-de-sac.
Absolument. Et c'est pour ça que très souvent, ça nous prend un ami ou une amie, et même des fois un thérapeute spécialisé, ou encore une sorte de miracle, c'est certain, et on le voit dans le possédé de Gérasa, dans Marc 5, c'est évident. Alors, c'est quoi qui se passe? Vous avez parlé de la colère envers soi-même, c'est évidemment la pire, c'est la mutilation, c'est effrayant, c'est l'autodestruction. Et j'ai vu des enfants, moi, j'ai vu un enfant se battre lui-même et se mutiler parce que ses parents avaient arrêté de le battre, tellement qu'au fond de nous, il y a un besoin de justice extraordinaire. Et que si elle ne se fait pas, on s'organise quasiment pour qu'elle se fasse à la limite. Mais quand même, c'est pas tellement la thérapie que cette justice de destruction, puisque au fond, se détruire soi-même, c'est pas se corriger, c'est disparaître. Alors il s'agit pas de ça, il s'agit d'une béatitude de libération. Et quand on verra la béatitude de ceux qui pleurent, on comprendra encore mieux celle-ci. Mais quand même, c'est bon de souligner que dans le texte grec, les deux sont intervertis. Ceux qui pleurent apparaît, la béatitude de ceux qui pleurent apparaît avant celle des doux. Mais nous autres, nous en tenons au texte français où les doux sont en deuxième et ceux qui pleurent en troisième. Alors, au fond, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que le doux, là, c'est qu'il n'y a plus rien à perdre tellement qu'il a rencontré l'essentiel de lui-même et de sa destinée. Alors, ayant plus rien à perdre, il n'y a plus peur. Il n'y a plus peur de la mort. Il n'y a même pas peur de ses péchés comme tels parce que le Christ va lui pardonner et en demandant pardon, ils seront détruits et le Christ les utilisera pour le promouvoir vers une situation encore meilleure. Donc, le doux, c'est quelqu'un que tu peux pas déranger profondément dans son bonheur. C'est effrayant de dire ça, mais c'est exactement ça, la béatitude. Et on verra que c'est le deuxième bloc ou le deuxième thème qui pourra permettre ça et comment ça fonctionne. Mais on peut dire ici que, évidemment, plus quelqu'un fait de l'insécurité, plus il a été assailli, plus il est proche de la colère. Sinon, à un moment donné, il va arriver une résignation maladive, là, où il ne répondra plus aux attaques du tout, du tout. Or, on voit que Jésus, par exemple, durant son procès avec le grand prêtre, quand le serviteur du grand prêtre le frappe, Jésus ne dit pas « c'est très bon, très bien, continue », il dit pas ça, il dit « hey », il dit « montre où est le mal ». Autrement dit, Jésus, c'est pas un mou. Pour être très doux, faut être très, très fort. Alors, d'où vient la force du doux? C'est que, il est heureux, il n'a rien à perdre. Alors, on peut pas l'attaquer.
C'est ça que j'allais dire, il est inattaquable.
Il est inattaquable en profondeur parce que ce qu'il a est assuré. Ce qu'il a est assuré. Saint Paul va dire, il n'y a rien qui peut vous enlever l'amour de Dieu. Rien. Pas même la mort, rien. Et on pourrait peut-être ajouter même pas le péché, en ce sens que si on demande pardon, le péché, Dieu est là pour nous pardonner. Alors, le doux, c'est quelqu'un qui a lui-même subi ou activé en lui une thérapie, c'est-à-dire que les fruits de l'esprit ou un thérapeute ou quelqu'un l'a aimé inconditionnellement, de telle sorte que quelqu'un l'a aidé à aller chercher sa partie négative. Parce qu'au fond, on est sans anneaux, hein? On est moitié sans anneaux. On est la moitié bon, puis on est la moitié, des fois, de travers. Alors, quand on se marie d'ailleurs, des fois, on se marie avec la meilleure moitié, là, évidemment, puis l'autre aussi, là. Puis quand ces deux moitiés bonnes se rencontrent, ben c'est le bonheur parfait, là. Puis à un moment donné, la moitié négative qui est en nous, à un moment donné, elle sort. Puis si c'est la moitié négative de l'autre qui sort, ben là, c'est le matelas qui part par la fenêtre.
Mais il y a souvent des dichotomies qui reviennent à la surface.
Oui. Alors que chez le doux, on a subi une thérapie. Autrement dit, on est dans une relation amoureuse, on vient tellement qu'à se pardonner et on vient tellement qu'à sortir du marasme par nos pardons qu'à un moment donné, on vient à découvrir qu'on s'aimera toujours pareil. Donc à un moment donné, là, à ce moment-là, nos chicanes ne nous blessent plus profondément. De telle sorte même qu'à un moment donné, on arrive à en rire. De telle sorte que nos chicanes ne détruisent plus rien de grave dans nos vies. Et là, le ménage est assuré.
Mais tout ça, ça peut être un long apprentissage.
C'est un long apprentissage. C'est pas une réaction instantanée du café instantané, là. Parce que c'est un combat, ça. C'est un combat où on utilise notre agressivité pour détruire les obstacles à cette relation amoureuse-là, malgré l'autre, des fois. Par exemple, mettons que moi, j'ai déjà assisté à une thérapie avec un drogué. Le thérapeute tenait le drogué dans ses bras, puis le drogué, il claquait sur le thérapeute en disant « Laisse-moi partir, laisse-moi partir. » C'était dur à voir, ça. Ça aurait été facile de le laisser aller, puis de dire « Ben, pars d'abord. » Mais non, le thérapeute l'a tenu. Finalement, le drogué a écrasé, puis a dit « Merci. »
C'était sa façon de le sauver.
C'était la façon de le sauver.
Pour revenir aux doux, vous affirmez qu'à cause de leur foi, celui qui les dirige, je cite, « Celui qui les dirige fait en sorte qu'ils jouissent de la paix dès maintenant. » C'est une citation du psaume 37.
Oui.
Vous êtes sans doute d'accord qu'il ne s'agit certainement pas de la paix entre les nations.
Non.
C'est une paix individuelle, alors, plus
pas
intérieure,
encore.
Moins visible.
Pas encore, c'est ça, oui. Oui. C'est évident que ce mouvement-là, ça en vient de plus en plus mondial. Que quand je vois l'armée, par exemple, ne pas utiliser les fusils chargés comme arme de dissuasion, puis pour permettre quand même aux gens de se réorienter de nouveau dans cette impasse qu'est la colère puis la vengeance, qui n'ont pas de fin, je vois ça comme une page d'évangile. Mais il faut même inciter encore plus, comme disait l'abbé Pierre, à s'ingérer même physiquement pour détruire les armes de l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans.
Parce que la paix intérieure, finalement, il faut qu'elle se projette, là, qu'elle s'actualise dans quelque chose de concret.
Il faut qu'elle se produise dans des œuvres.
Et nécessairement dans les rapports avec les autres, avec
absolument,
le monde.
Absolument, parce que cette béatitude-là, c'est une béatitude de comportement envers autrui. Évidemment, ça nécessite une attitude au départ, qu'on appelle l'humilité. C'est pourquoi maintenant, nous allons parler d'humilité. Ensuite, nous passerons au deuxième bloc, c'est-à-dire à posséderons la terre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est une affaire extraordinaire, l'humilité. L'humilité, c'est la seule qualité qu'on ne peut pas dire qu'on a. C'est drôle, mais c'est comme ça. Tu commences à dire que t'es humble, les gens vont te demander si c'est vrai, là, tu sais. Alors, c'est pas à nous autres à nous dire qu'on est humble. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humilité? Nous allons y revenir.
Je pense qu'on a quand même le temps, là, au sujet de l'humilité. C'est parce que j'avais une petite question. Si l'humilité est une composante ou un dérivatif de la douceur, à ce sujet, vous citez la deuxième épître aux Corinthiens, « Car l'humble ne se glorifie que dans ses faiblesses ». Mais si on doit se glorifier, il me semble que ça devrait être nécessairement à cause de ses qualités positives, de ses bons coups. Les faiblesses humaines, nos fragilités, c'est quand même pas très positif comme élément de gloire personnelle.
Voilà, c'est pourquoi quand la Vierge récitait le Magnificat, elle n'était pas très constipée spirituellement, elle était très heureuse de dire qu'elle était la femme la plus grande du monde. Ça ne l'a pas gêné de dire ça parce que c'est le Seigneur qui avait accompli ça en elle. Alors, ce qui fait la différence entre l'orgueilleux et l'humble, d'où vient l'humilité? Elle vient de l'expérience de ce qui nous dépasse. Plus l'expérience de ce qui nous dépasse est grande, plus nous sommes humbles, c'est-à-dire vrais dans notre grandeur, mais capables aussi d'accepter notre petitesse parce que nous avons expérimenté l'extrêmement grand. Et expérimenter ce qui nous dépasse, ça rend grand même les savants.
Je pense qu'il y a lieu à l'occasion de définir certains termes par la négative, M. Truchon, c'est-à-dire d'affirmer ce qu'ils ne sont pas. Et alors, j'aimerais savoir la différence entre un doux au sens de la béatitude, même si vous en aviez parlé tout à l'heure, et celui qui se laisse exploiter psychologiquement, émotivement, ou encore celui qui ne sait pas se faire valoir, ni défendre ses droits, par exemple. Les femmes battues, c'est un bon exemple. Ces gens-là sont aussi des doux, on pourrait le croire.
Ah non, non, ce ne sont pas des doux, ce sont des faibles, des mous, des victimes, des gens qui sont blessés, qui sont handicapés et qu'il faut absolument aider. Alors, il ne s'agit pas de se laisser tuer comme ça. Alors, justement, c'est pas bienheureux les mous, c'est bienheureux les doux. Alors, c'est pas quelqu'un qui se défend pas, c'est pas, au contraire, c'est une non-violence active. C'est quelqu'un qui revendique activement les droits de la vérité, les droits de la personne, et qui, à un moment donné, conteste très fortement, d'autant plus que la relation amoureuse auquel il tient, nécessite cette intervention, de vérité. Parce qu'au fond, la thérapie, c'est rétablir la vérité, d'abord. Il faut rétablir d'abord la lumière dans l'intelligence. Toute thérapie commence par un éclairage de l'intelligence et pas simplement un mouvement affectif. Alors, c'est évident que cette béatitude des doux, c'est les forts, c'est ceux qui sont fermes dans leurs convictions, c'est ceux qui respectent les autres, on pourrait dire à mort, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement justes, extrêmement forts pour redire les choses pénibles à dire, seulement qu'ils sont bons. C'est-à-dire que quand ils disent quelque chose de dur à dire, on perçoit qu'ils nous aiment et c'est parce qu'ils nous aiment qu'ils font ça, et on perçoit qu'ils nous aiment encore plus que ce qui est dur à dire disent, et dur à dire qu'ils disent.
D'accord. Je pense qu'on pourrait peut-être passer maintenant à la notion de terre en héritage,
Oui.
celle qui nous est promise en échange de la douceur. Je tiens à revenir un petit peu là-dessus parce que je sais à quel point vous insistez sur la corrélation entre les deux éléments dans
Oui.
chacune des béatitudes. Le bonheur, l'état de bienheureux dans chaque béatitude, Jésus l'associe à un élément précis. Il nous dit, soyez comme ceci et je vous accorderai cela. Je pense au fond, Jésus nous offre une représentation humaine accessible de sa conception du bonheur qui pour lui se résume tout simplement, j'imagine, à l'amour. Bon, ça fait un petit peu long, mais c'est pour mieux vous inviter à nous parler de la terre en héritage.
Oui, mais justement, ce que nous propose Jésus, c'est extrêmement humain, mais c'est tellement poussé loin dans l'humain qu'il faut le divin pour le réaliser. Alors, c'est un fruit de l'esprit. Toutes les béatitudes sont des fruits de l'esprit, mais il nous donne des représentations concrètes, bien simples à comprendre, et justement, des fois, trop simples à comprendre. Prenez les béatitudes, c'est peut-être ce qui est le moins connu, et pourtant, la Bible, c'est le livre le plus vendu. Alors, c'est parce qu'il y a des secrets à pénétrer là-dedans. Donc, l'homme en colère, au fond, c'est un faible. L'homme qui est bien fâché puis qui a l'air bien apeurant, au fond, est détraqué. Il a l'air d'une mécanique, d'ailleurs, d'un pantin avec des fils cassés. Lui, il sait pas, là. Mais quand on le regarde, nous autres, c'est pour ça qu'il y a des sages qui disent, si tu veux te fâcher, regarde-toi dans le miroir. Alors, c'est un peu comme quand on était jeune, on disait, c'est toi qui es laid. Autrement dit, l'homme coléreux, c'est un faible. Les dictateurs, au fond, c'est des personnes faibles. Ceux qui exploitent les autres, au fond, c'est des faibles. Seulement, ils se font paraître forts, puis ils créent la peur, puis ils créent la peur. Mais le doux, lui, c'est justement quelqu'un qui n'a plus jamais peur. Pourquoi? Voilà. C'est parce qu'il possède le royaume, c'est parce qu'il possède la terre, mais comment ça? Alors là, on va essayer d'expliquer ça très brièvement, mais très clairement. Dans la Bible, il y a deux façons de posséder. Il y en a une par l'argent ou par le travail. Par exemple, c'est évident que si je fais une table, la table est à moi. Quand même, quelqu'un dirait, est à moi, je dirais, non, c'est moi qui l'ai faite. Et ainsi, évidemment, tout ce qui existe possède, est possédé par Dieu, parce que c'est Dieu qui fait tout, et même nous autres, c'est lui qui nous fait. Alors, Dieu est propriétaire, c'est évident. C'est la première façon de posséder. Il y en a une deuxième. Pour la comprendre, continuons la première. Alors, je m'en vais au centre d'achat, je m'en vais dans un pet shop, puis je m'achète un petit chat, 3,75 $, puis je le paye. Bon. Alors, évidemment, si quelqu'un vient me voler mon chat, j'appelle la police, je sors ma facture, puis la police va dire, hey, donne-y son chat, c'est à lui. C'est évident que c'est à moi. Seulement que la façon que je porte le chat, puis que je l'amène chez nous, c'est pas évident que je le porte, plutôt parce que j'ai même trop peur de le perdre, qui est pas tellement à moi. Le chat et moi, on se connaît pas. Alors, c'est pas compliqué, je viens de l'acheter, c'est clair.
C'est une possession,
Une
vous avez
possession,
pas.
c'est comme un objet,
C'est ça,
quasiment.
oui.
Seulement qu'en arrivant chez nous, je le mets sur le plancher, là, nos planchers sont bien propres, un peu comme des pianos aujourd'hui, là. Puis là, il est glissant le plancher, puis là, il a peur de tomber, puis il est tout raide, parce qu'il n'a jamais vu ma maison, il n'a jamais vu la cuisine, il ne sait même pas si je suis un être dangereux, il ne sait même pas pourquoi je l'ai acheté, c'est peut-être pour le bouffer, je ne sais pas. Alors, il a peur. Mais au bout de 2 jours, il commence à manger, il commence à s'assouplir, il court un petit peu. Puis pour couper court, parce qu'on n'a pas une éternité pour parler, pour couper court, à un moment donné, il sort dehors, puis il revient. Autrement dit, il est chez nous, c'est mon chat. Et un jour, j'ai perdu un chien, puis j'ai pas été capable de souper. C'est pas parce que je l'avais payé cher, c'est parce que c'est mon chien. Puis écoute, c'était quelque chose quasiment de moi, ça. Et ainsi doit-on. Des fois, je fais en farce, puis je dis qu'au fond, ma femme ne l'attache plus maintenant. Elle sort dehors, elle revient. C'est évident, c'est pas une farce bien drôle, mais surtout qu'elle était pas dure. Elle était dure à attacher, puis elle n'a jamais été attachée. Alors, c'est pour montrer que quand on aime vraiment, là, on force pas la personne. On la laisse devenir. On la laisse devenir elle-même et on la séduit. À un moment donné, j'étais à genoux avec mon chat sur le plancher, puis moi, j'en avais un chat, puis je priais, là, puis il priait quasiment avec moi, mon chat. Autrement dit, quand on aime un animal, il se dépasse tellement qu'il fait quasiment des affaires comme nous autres. Et quand je vois un chien qui conduit un aveugle, j'en reviens pas, ça me met les larmes aux yeux, parce que pour une, comme une vocation de chien, là, c'est d'être rendu loin pas mal que de diriger un humain, parce que, au niveau de ses yeux. Alors, c'est pour montrer qu'il y a une nouvelle façon de posséder, pas les objets, évidemment, mais les personnes, c'est-à-dire de posséder les cœurs. Et quand tu es aimé de quelqu'un, et quand tu aimes quelqu'un, et que tu es aimé de quelqu'un, c'est évident que tu as ce qu'il y a. Et contrairement, par exemple, s'il y a 5 $, puis moi j'en ai 5, le fait qu'il y en ait 5, ça empêche que je n'ai 10. Mais si on s'aime, j'en ai 10, même s'il garde ses 5.
Lorsqu'il est passé, le doux laisse dans son sillage le goût de lui de poursuivre son œuvre. Voilà une affirmation de vous, M. Truchon, qui me paraît très bien résumer l'incidence de la véritable douceur sur les autres. C'est là-dessus que nous allons malheureusement devoir nous quitter déjà, mais avant de le faire, j'aimerais lire à nos auditeurs une petite citation sur le bonheur. Le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Nous allons poursuivre notre petit voyage à nous, et encore une fois, M. Truchon, je vous remercie.